À Rencontre aujourd'hui, il sera question de Simone Veil, qui est morte à 34 ans, 34 ans et demi, en 1943, en Angleterre. C'était une Française, en fait d'origine juive, mais qui ne s'est jamais vraiment considérée comme une juive ayant été élevée dans une famille juive agnostique. Elle a publié, ce sont des œuvres posthumes, et elle est morte très jeune, elle avait laissé ses cahiers à Gustave Thibon et au fameux père Perrin, et qui se sont chargés, en fait, de les publier. Deux de ses plus beaux livres, les plus populaires, et parmi les plus grands livres de ce siècle, sont La pesanteur et la grâce, avec une introduction par Gustave Thibon, paru chez Plon il y a déjà très longtemps. Ils étaient rendus à l'époque où j'ai acheté le livre, moi, au 31e mille, ce qui est considérable pour un livre sérieux. Et c'était en 1948, vous vous imaginez. Oui, j'avais acheté ça à ce moment-là, et ça m'avait bouleversé. J'y ai lu des choses sur la croix. Elle qui ne s'est jamais fait baptiser, qui n'est jamais devenue catholique, qui n'a pas eu le temps pour ainsi dire. Et elle dit à un moment donné, elle écrit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle ferme les guillemets, puis « là est la véritable preuve que le christianisme est quelque chose de divin. » Oh, elle écrit sur le Christ guérissant des infirmes, ressuscitant des morts, etc. C'est la partie humble, humaine, presque basse de sa mission. La partie surnaturelle, c'est la sueur de sang, le désir insatisfait de consolations humaines, la supplication d'être épargné, le sentiment d'être abandonné de Dieu. C'est si riche et si beau, je me souviens, on s'émerveillait ensemble, beaucoup de gens à l'époque, et je ne sais pas pourquoi Simone Veil est moins populaire. Et dans Attente de Dieu, un autre livre qui est toujours publié, chez Fayard, c'est dans une collection, Livre de vie, c'est le numéro 129, vous voyez ça sur les étagères dans les librairies. Il y a des choses tellement belles, n'est-ce pas, comme quand elle dit « Le christianisme d'aujourd'hui s'est laissé contaminer par ses adversaires. » La métaphore de la recherche de Dieu évoque des efforts de volonté musculaire. Pascal, il est vrai, a contribué à la fortune de cette métaphore, hein, « rechercher Dieu ». Il a commis quelques erreurs, notamment celle de confondre dans une certaine mesure la foi et l'autosuggestion. Elle prétend que c'est pas une question d'autosuggestion, la foi. Et dans les grandes images de la mythologie et du folklore, dans les paraboles de l'Évangile, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et elle s'étend sur cette recherche que l'homme fait de Dieu. C'est si beau. C'est très, très beau. Dans un beau livre écrit par Marie-Madeleine Davy, qui vient de mourir... Je l'aimais beaucoup, Marie-Madeleine Davy. Vous savez que nous avions, Marcel Brisebois et moi, fait des entrevues chez elle, à Paris, pour l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada. Ça avait fait sensation. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous souvenez de Marie-Madeleine Davy. Et elle a écrit un Simone Veil, avec une préface de Gabriel Marcel, qui était un grand ami de Marie-Madeleine Davy. Et... j'ai souvent revu Marie-Madeleine Davy, je l'amenais manger au restaurant, j'allais lui rendre visite, on passait des heures à causer. Et en mémoire de cette amitié que nous avions développée, je voudrais me référer souvent à ce livre pour vous parler de Simone Veil, témoin de l'absolu. Témoin de l'absolu, comme dit... Gabriel Marcel, elle a mis simplement Simone Veil. Lui, il ajoute « témoin de l'absolu ». Parce qu'il dit que Simone Veil, d'après Marie-Madeleine Davy, fut témoin de la vérité, et il dit sans doute « mais j'aimerais dire un témoin de l'absolu », ce qui est beaucoup plus exceptionnel et plus paradoxal. Et c'est... une fois qu'on a reconnu, dit Simone Veil, une fois qu'on a reconnu Dieu comme le bien suprême réel, éternellement satisfait par soi-même, c'est assez. On peut supposer que non seulement il ne récompense ni ne punit ses créatures, mais que même il ignore leur effort pour lui obéir, leur défaillance ou leur révolte. Et Simone Veil ajoute, on ne désirera pas moins lui obéir, plus que toute autre chose, avec un désir plus fort que la faim, la soif, la flamme charnelle ou le besoin d'un répit au milieu d'une torture physique. Tout le désir que la nature a mis dans l'âme humaine est attaché à la nourriture, à la boisson, au repos, au bien-être physique, au plaisir des yeux et des oreilles, aux êtres humains, doit être enlevé à ces choses et dirigé exclusivement sur l'obéissance à Dieu. Elle avait les paroles d'une grande sainte, comme vous voyez. Mais telle canonisable, j'en doute. Car quand on la lit, bien, on est prêt à recevoir ce qui nous est destiné dans ces livres. Mais il y a aussi des choses qui sont contradictoires parfois. Il faut dire avec Marie-Madeleine Davy que chaque siècle est illuminé par une ou plusieurs présences. Ces présences naissent d'une compassion de Dieu pour le monde. On dirait que Dieu se penche vers nous ou surgit en nous à travers ces gens. Et c'est à nous d'en prendre conscience et de ne pas rejeter la lumière qui nous éclaire exactement dans la mesure où nous refusons de nous réfugier dans notre opacité. Pourquoi se réfugier dans notre opacité plutôt que d'écouter la voix des saints qui nous entourent? Cette opacité dans laquelle nous nous réfugions est faite de nos options basses, de notre manque d'attention puis de notre manque d'amour. Cette opacité, cette noirceur dans laquelle nous nous plongeons, cette carapace est semblable encore à une prison qui nous retient entre des murs dépourvus de brèches, donnant accès sur la liberté. Elle nous cloisonne à l'égard d'autrui. Or, si nous ouvrons notre cœur à Simone Veil, nous trouvons là une pensée, une vie, un message au monde, à notre monde contemporain, extraordinaire. Car toute son attention à Simone Veil est fixée sur le malheur du monde que nous oublions si facilement. Nous en voyons tellement à la télévision, nous en lisons tellement dans les journaux, qu'on tourne les pages et on n'a plus de réaction. Mais Simone Veil contemple le malheur du monde, elle non pour s'y complaire, mais parce qu'elle croit à la beauté du monde. Et elle sait qu'il est possible d'en devenir le rédempteur. Simone Veil est née à Paris, il y a 90 ans aujourd'hui, le 3 février 1909. Son père, médecin, sa mère, tous deux habitaient au boulevard de Strasbourg, puis plus tard, ils sont allés sur le boulevard Saint-Michel, près de la place de la Sorbonne. Ça vous donne une idée pour ceux qui connaissent Paris. Et enfin, rue Auguste-Comte, dans un appartement qui dominait le Luxembourg. Ils ont donc eu des appartements dans des endroits merveilleux. Et elle a été l'élève de Le Seine au lycée Victor-Duruy. Et elle a fait sa première supérieure au lycée Henri IV. Et c'est là qu'elle a suivi les cours d'Alain. Alain, vous connaissez, il y a 3 livres, moi je les ai, de la collection de la Pléiade, les propos d'Alain, les passions et la sagesse d'Alain, les arts et les dieux d'Alain. C'est considérable, je n'ai jamais tout lu ça, ma vie est trop courte pour pouvoir tout lire ça. Mais j'y ai lu des choses magnifiques dont je vous ai déjà fait part dans certaines émissions. Alors elle a eu Alain et ça l'a beaucoup marqué, ça a exercé sur son esprit une très forte influence. Elle est devenue normalienne, comme on dit, puis elle passe l'agrégation de philosophie en 1931. Puis elle enseigne dans plusieurs lycées de province, Le Puy, Auxerre, Roanne. En 1934, elle entre en usine afin de connaître la condition ouvrière. Elle est professeure au lycée de Bourges en 35 et 36. Elle le quitte pour s'enrôler dans un groupe international d'anarchistes qui participait à la guerre d'Espagne. Vous voyez que c'est une vie étrange. Mais elle a un accident, une brûlure à la jambe. Ça la fera rentrer en France, puis en 1937, elle est professeure à Saint-Quentin, puis souffrante, elle prend un congé. Puis après, c'est la guerre, le départ de Paris, le 13 juin 1940... L'arrivée à Marseille, où elle fait la connaissance du père Perrin et de Gustave Thibon. Et avec sa famille, bien, elle part pour New York le 17 mai 1942, exactement 300 ans après la fondation de Montréal. Soit dit en passant, pour ceux qui ne savent pas quand Montréal a été fondée, c'est le 17 mai 1642. Et elle reste à New York, c'est pas longtemps, de juin à novembre 1942. Puis, à partir de cette date, elle est à Londres, elle y fait du travaux, mais ça ne l'intéresse pas, elle voudrait entrer dans la résistance, puis elle tombe malade, elle entre à l'hôpital Middlesex en avril 43, puis au sanatorium d'Ashford en août de cette même année. Et elle meurt à Ashford le 24 août 1943. Simone Veil a donc vécu 34 ans et demi. Quand on pense que Pascal est mort à 39 ans, baisse Pascal. Et si nous comparons les deux visages, comme nous le dit Marie-Madeleine Davy, c'est parce que l'un et l'autre, pendant une période très courte, n'oublions pas que l'on mourait beaucoup plus jeune au 17e siècle, comme Pascal, mais ils ont écrit, ces deux personnes-là, cet homme et cette femme, des ouvrages d'une telle importance qu'ils éclairent par leur trait de feu non seulement leur époque, mais l'histoire à venir. Alors, la vie de Simone Veil est d'une extrême originalité. On pourrait dire, justement, qu'elle ne fait rien comme les autres et sa personnalité provoque les pièges, les embûches, les oppositions. Elle est très douée, très sérieuse, grave même. Elle étonnait. À l'âge où les jeunes filles sont ordinairement coquettes, Simone Veil ne prêtait aucune attention à sa toilette. Elle portait d'ailleurs des lunettes assez épaisses. Cette adolescence, qui avait un peu des allures de garçon, qui était autoritaire dans ses jugements, mais qui était aussi très cordiale avec ses compagnes, ne se mélangeait jamais absolument à ses compagnes. Pas qu'elle ne l'aurait pas voulu, mais son étrangeté rendait très suspecte sa présence, et depuis, elle faisait partie de ces têtes de classe imbattables. On a tous eu dans nos classes des têtes de classe imbattables. Moi, c'était Denis Lazur qui est devenu député du Parti québécois, Gérard D. Lévesque qui est devenu député libéral à l'Assemblée nationale, et un troisième, Philippe Laurendeau, qui a été oublié, qui est devenu professeur d'anglais en Éthiopie, il était jésuite. C'était les trois. Le Seine dont je vous ai parlé, qui était son professeur, a écrit qu'elle comptait parmi les 5 ou 6 élèves les plus brillantes qu'il ait rencontrées au cours de sa carrière. À Henri IV, Simone Veil se fait remarquer du professeur Alain, dont je vous ai parlé, qui la considère comme l'étudiante la plus intelligente de la Cagne. Il avoue même que personne n'a mieux compris la pensée de Spinoza. Et ses camarades, sauf peut-être un ou deux, l'observent avec une certaine inquiétude. Il y en a même des malheureux, des garçons un peu taquins, disons, dans un langage d'étudiant qui dit « Ah, j'ai connu Simone Veil, Henri IV, elle était imbuvable. » Mais Simone Veil, qui est une pourchasseuse d'idées, est toujours possédée par quelques problèmes. Elle les communique volontiers. À la Sorbonne, il y a un professeur qui la nomme la Vierge Rouge, parce qu'elle a des idées un peu de tendance communiste. Ce surnom la suit à l'école normale. Alors, elle devient, comme je vous ai dit, professeure dans des villes de province. Et au puits, Simone enseigne au lycée la philosophie, puis la population ouvrière souffre cruellement de chômage, s'engage avec eux, les amène à une séance du conseil municipal, elle fait des siennes, et finalement, ça suscite une espèce de petite révolution, et on publie dans La Croix, oui, le journal La Croix du 4 janvier 1932, une demoiselle professeure de lycée ameute les chômeurs au puits. Au puits, oui, une demoiselle Veil, professeure au lycée Dupuis, a ameuté mardi 18h des chômeurs qui ont tenté de débaucher des casseurs de pierre. La police est intervenue, la demoiselle a pris la fuite et les chômeurs ont ensuite manifesté en ville bruyamment. C'est dire que Simone Veil groupe les ouvriers et les harangue. Elle a pitié des pauvres. Elle veut sortir les pauvres. Elle va même au café, elle boit du vin rouge et joue aux cartes avec les ouvriers. Imaginez un professeur de philosophie à cette époque qui ose poser de tels gestes. Alors évidemment que cette Simone Veil, dans sa conduite en province où les choses sont plutôt convenues, elle est un peu surprenante. Professeur de philosophie, elle va au café, elle boit du vin rouge et joue aux cartes avec les ouvriers. Alors les parents s'en affolent. On la considère comme étant un peu d'extrême gauche. Simone Veil est officiellement blâmée et sa désapprobation l'irrite, mais ça ne la rend pas plus sage. Sous le titre de « Survivance des castes », une allure, évidemment, ce qui se passe en Inde. Elle publie un article ironique. Elle écrit « L'administration universitaire est en retard de quelques milliers d'années sur la civilisation humaine, etc. » Et puis on la juge communiste, comme je vous ai dit. Puis en réalité, Simone Veil, elle ne l'est pas. Elle s'oppose simplement au pharisaïsme bourgeois imperméable à la misère ouvrière. Pour les ouvriers, Simone Veil est moins la camarade que l'amie savante, hein, dont les conseils puis l'influence peuvent être importants dans un ordre pratique. Alors elle les étonne par son extraordinaire simplicité, puis aussi la qualité de son savoir, hein. Alors, la plupart des professeurs de lycée s'inquiètent. Ils sont ahuris par la conduite de Simone Veil. Son autorité même, ses préoccupations l'isolent. Elle devient une espèce d'étrangère. Quelqu'un qui la connaissait la décrit alors qu'elle était professeure comme ça. Elle lisait Karl Marx dans le texte tout en mangeant, levant de temps à autre un regard tout embué derrière d'épaisses lunettes, obscurci encore par les mèches qui lui tombaient sur les yeux. Un regard qui semblait ne pas nous voir. Alors, elle est hantée, comme je vous ai dit, par la misère humaine. Et alors, Dupuis, elle se rend chaque semaine à Saint-Étienne, c'est pas loin. Et c'est une ville minière où il y a souvent eu des troubles ouvriers, là. Elle se plonge dans la bagarre syndicale, elle fait la connaissance des mineurs avec qui elle fraternise. Et plus tard, elle va écrire « J'ai le besoin essentiel ». Et je crois pouvoir dire la vocation de passer parmi les hommes et les différents milieux humains en me confondant avec eux. Elle n'en prend pas les défauts, mais elle veut les connaître et les aimer. Au lycée Dupuis, ensuite d'Auxerre, de Roanne, Simone Veil reste une seule année. C'est qu'elle est mutée, on n'en veut plus. Partout où elle passe, elle jette un certain désarroi. Tant elle réveille la torpeur de tout ce monde, nous-mêmes, nous sommes presque tous assoupis peut-être. Certes, on peut l'admirer, mais sa présence suscite des difficultés, car elle rompt les habitudes. Elle est anarcho-syndicaliste. Simone Veil manifeste déjà des tendances chrétiennes, pourtant. On raconte qu'à Reims, après une séance, elle a fait l'éloge des religieux et des religieuses, tandis que ses camarades, eux, rigolaient gentiment. Elle comprenait les religieux et les religieuses qui avaient du cœur et qui voulaient vraiment aider les autres. Elle devient en somme le cerveau des groupes qu'elle anime, et il ne suffit pas à Simone Veil de donner des conseils et d'élaborer une doctrine sociale. Elle veut partager le malheur d'une classe opprimée. Elle est consciente de l'importance du travail manuel. Elle décide d'en faire l'expérience et elle, philosophe brillante, extraordinaire, va se faire ouvrière. Et après avoir obtenu un congé d'un an, Simone Veil devient quoi? Fraiseuse chez Renault, imaginez. Elle habite une chambre de bonne. Et la misère à laquelle cet intellectuel est si profondément attentive, cette vie humaine imposée aux ouvriers, on pourrait dire qu'elle n'est pas nouvelle. Que cette obsession qu'en éprouve Simone Veil lui est particulière et cesse ainsi de constituer un véritable problème. Je vous ai fait une émission sur Camus il n'y a pas longtemps. Camus, je dénonçais le malheur ouvrier comme le déshonneur de cette civilisation, disait-il. Mais c'est ce qu'elle ressent. Rien ne préparait Simone Veil à entreprendre une expérience ouvrière semblable. Il a fallu de l'héroïsme. Alors que d'autres n'auraient eu peut-être que du courage. Mais elle, c'est de l'héroïsme. Sa manière de vivre, son tempérament supra-intellectuel, sa gaucherie sur le plan manuel, autant d'éléments qui aggravent pour Simone Veil les difficultés. Elle va écrire au père Perrin, « Ce contact avec le malheur avait tué ma jeunesse. Le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. Depuis, je me suis toujours regardé comme une esclave. » Et c'est en 1934, 9 ans avant sa mort, après une année d'expérience ouvrière, que Simone Veil va écrire son extraordinaire manifeste sur l'oppression et liberté. En 1936, Simone Veil s'engage dans un corps franc formé de recrues internationales chargées de missions périlleuses en Espagne. Alors, elle va là, mais comme je vous ai dit, elle a une brûlure grave à la jambe, elle revient en France. Elle avait un certain bellicisme en Espagne, mais à son retour, elle comprend que cet équipier était une erreur. Elle a fait une erreur, là. Parce qu'elle s'est rendue compte que d'un côté et de l'autre, c'était vraiment épouvantable. Au début, elle avait cru participer à une guerre de paysans affamés contre les propriétaires terriens, écrit-elle, et un clergé complice des propriétaires. Or, dans sa lettre à Georges Bernanos, dont je vous ai déjà parlé aussi, à propos de son ouvrage « Les grands cimetières sous la lune », elle avoue « Écoutez bien ça, j'ai reconnu cette odeur de guerre civile, de sang et de terreur que dégage votre livre « Les grands cimetières sous la lune ». Je l'avais respiré. On part en volontaire avec des idées de sacrifice et on tombe dans une guerre qui ressemble à une guerre de mercenaires avec beaucoup de cruauté en plus et le sens des égards dus à l'ennemi en moins. Dans cette même lettre, Simone Veil fera allusion avec douleur à des exécutions sommaires d'ennemis ou d'hommes jugés tels par les révolutionnaires. L'exigence de Simone Veil, donc, refuse toute compromission. C'est une femme droite, et on ne saurait lui reprocher cette intolérance, car son existence a été absolument fidèle à sa doctrine. Elle en est morte, d'ailleurs. C'est la Leceau qui paraphe son message, elle est morte, au fond, au même âge que notre Seigneur. Simone Veil a composé un tableau concret d'une société libre. Elle a écrit « Conditions ouvrières ». Une société qu'elle nomme une utopie. C'est une société libre. Ça peut faire sourire les amateurs de facilité quand on lit ça. Mais les masses sont-elles prêtes à entendre la voix de Simone Veil? La voix du pauvre par nature, non pas par malchance. La voix de l'être qui n'a rien, qui ne possède rien parce qu'il n'a besoin que d'être homme parmi les autres hommes. Elle parle de tout ça avec un feu, un enthousiasme, une passion. On doute que les hommes soient prêts à comprendre un tel enseignement. Quand on voit avec quelle facilité on prise sur nous, n'est-ce pas, les séductions de l'argent, de la vanité, du plaisir et de la puissance. Hein? Mais comment se vouer à autre chose qu'à la vraie vie, dit-elle, quand on a entrevu sa vérité, sa beauté, la beauté de Dieu? C'est donc à cette vocation que s'est donnée Simone Veil. Et ce ne sont pas là les seuls traits du visage de Simone Veil. À côté de cet engagement terrestre, il importe de noter son expérience d'ordre spirituel, dont je vous ai glissé un mot au début, et c'est d'ailleurs par le sacrifice puis l'amour d'autrui que Simone Veil a pu affronter le social. Je vous ai dit que Simone Veil était née juive, mais elle fut élevée d'une façon agnostique, ne l'oubliez pas. Il semble que Simone Veil n'ait jamais saisi sa véritable origine juive qu'au moment où les décrets de Vichy la chassèrent de l'université. Gouvernement de Vichy. Elle va écrire à Xavier Vallat en 1941 « Je ne me considère pas moi-même comme juive, car je ne suis jamais entré dans une synagogue, j'ai été élevé sans pratique religieuse, d'aucune espèce par des parents libres penseurs. Je n'ai aucune attirance vers la religion juive, aucune attache avec la religion juive, et je ne me suis nourri depuis ma première enfance que de la tradition hellénique, grecque si vous voulez, chrétienne et française. » Et en réalité, Simone Veil ignore la pensée juive, et cela est d'autant plus étonnant que sa culture apparaît d'une ampleur illimitée. Hein? Ah, si elle avait eu le goût d'étudier la littérature juive, elle aurait sans doute compris, d'une toute autre manière, l'Ancien Testament et aussi le Nouveau. Mais elle a bien compris bien des choses, et son intérêt pour la mystique religieuse aurait été encore mieux nourri. Aucune pratique religieuse juive, donc, une méconnaissance par ignorance d'un legs considérable. Voilà Simone Veil. Mais une culture si vaste qu'elle est vraiment l'une des femmes les plus cultivées, si vous voyez les livres, que je pense simplement à Intuition pré-chrétienne, Pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu, et puis ses livres sur la Grèce aussi, c'est absolument merveilleux de tout lire ça. Si vous voulez lire au sujet de Simone Veil, quelque chose de bien, bien intéressant, c'est publié chez Nouvelle Cité, la maison d'édition religieuse Nouvelle Cité. C'est par le père Joseph-Marie Perrin qui a été, on pourrait ainsi dire, son meilleur ami, un dominicain. Le titre, c'est « Mon dialogue avec Simone Veil ». Ça se dévore. Hein? C'est en... En 1940, au moment de la déclaration de la guerre, que Simone Veil, à 31 ans, vient se réfugier en France libre à Marseille, où en juin de l'année suivante, elle entre en relation directe avec le père Perrin, puis on pourrait dire que tout les sépare. Mais pourtant, Simone Veil a déjà eu un premier contact avec le catholicisme 7 ans plus tôt, dans un voyage en Espagne pour Portugal, puis en 1937 à Assise aussi, s'était produit le deuxième de ses contacts majeurs avec le christianisme. Elle était bouleversée, puis elle avoue, là, dans la petite chapelle romane du 12e siècle, quelque chose de plus fort que moi m'a obligé pour la première fois de ma vie à me mettre à genoux. Lorsqu'elle rencontre le père Perrin, Simone Veil est donc très interpellée par le message du Christ. Puis un dialogue profond, puis une correspondance déchirante qui va naître entre ces deux êtres d'exception. Le père Perrin, c'est un homme absolument fabuleux. Et ces échanges-là, le père Perrin lui les raconte dans ce livre et nous les commente d'une façon bouleversante. Son amour de l'Évangile, son amitié pour le père Perrin n'a jamais empêché Simone d'avoir des réticences envers l'Église catholique. Dommage. Il s'en expliquait ouvertement à son interlocuteur. Et là, vous comprendrez pourquoi. Moi, je me demande s'il n'y a pas un peu d'orgueil, là. La trop grande intelligence, la trop grande perception des choses vraies, évidentes à ses yeux, l'empêche de traverser et de voir derrière le voile la grande réalité, la grande vérité. Mais ça en explique quand même ouvertement au père Perrin, mais qu'importe. Puisque l'un et l'autre avait compris combien il était important de faire pénétrer l'amour divin dans ce monde trop matérialiste. Elle le fait, elle. D'ailleurs, lorsque deux êtres d'une telle exigence morale se croisent, eh bien, leur différence ne s'oppose plus, elle se complète, et ce prêtre a su la recevoir avec tout son cœur de dominicain, de prêtre. Seuls les caractères d'une race se reconnaissent, la race juive, se reconnaissent en Simone Veil. Car ils ont quand même des caractères extraordinaires. Ça se manifeste dans son goût positif de l'absolu, que l'on retrouve chez les Juifs vraiment croyants, là. Et dans la rigueur de son engagement aussi, on retrouve ça. Pratiquement, Simone Veil se pense et se juge chrétienne, et son horreur du ghetto rejoint son aversion pour l'Église constituée, là, l'Église catholique. Elle est chrétienne, mais non pas catholique, et c'est bien curieux et bien étrange. Dans son autobiographie, elle trace son autobiographie, c'est « Attente de Dieu », n'est-ce pas, paru, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, chez Fayard. « Attente de Dieu », comme une autobiographie. Donc. Alors, dans son autobiographie, elle trace le bilan de ses expériences chrétiennes. Après l'année d'usine, là, elle assiste au Portugal à une procession qui est composée de pêcheurs. Puis elle saisit le sens du christianisme à ce moment-là. Curieux, hein? En 1937, à Assise, comme je vous ai dit, elle s'agenouille pour la première fois dans la chapelle Sainte-Marie-des-Anges. Puis en 1938, l'année suivante, elle suit à Solesmes les offices de la Semaine Sainte. Avez-vous déjà suivi ça, des offices de la Semaine Sainte dans un monastère? Fabuleux, fabuleux. Ah, je fais ça, moi, depuis ma... J'ai commencé, j'avais 13-14 ans, et ça ne m'a jamais quitté l'amour des offices de la Semaine Sainte dans un monastère. Le chant grégorien la jette dans l'extase. Une grâce soudaine l'éclaire, et elle va écrire plus tard, « Le Christ est descendu et m'a prise ». Ah, si on pouvait tous dire ça, hein, « Le Christ est descendu et m'a pris ». Cette grâce... Il faut bien l'entendre dans un sens rigoureusement précis. C'est celui que désigne Gabriel Marcel quand il écrit, le grand philosophe existentialiste chrétien, là, Gabriel Marcel, un homme extraordinaire, il faut fréquenter un peu Gabriel Marcel, il écrit « Je ne prends pas ce mot dans je ne sais quelle acception abstraite et laïcisée. Non, il s'agit bien de la grâce du Dieu vivant, de ce Dieu, hélas, que chaque jour nous apporte tant d'occasions de renier et que soufflette le fanatisme, là même, là surtout, où ce fanatisme, loin de le nier, prétend s'autoriser de lui pour le crucifier de nouveau. » Faut jamais être fanatique. Je vous en ai parlé lundi. Quelle horreur que ce fanatisme. Simone Veil sera fort discrète, d'ailleurs, sur cette grâce d'illumination qu'elle a reçue. On trouve la mention dans ses lettres au père Perrin et à quelques autres. Et ses premiers cahiers n'y font pas allusion. D'ailleurs, en 1940, donc, elle quitte Paris avec sa famille lors de l'invasion allemande, hein, pour s'en aller aux États-Unis. Elle est à Marseille à ce moment-là, puis un grand nombre de personnes réfugiées fréquentent la chapelle des Dominicains. Il y a des conversions qui s'opèrent. Il y a des Israélites, des Juifs qui sont instruits en vue d'un éventuel baptême. Découvrent l'amour dans le cœur du Christ. Une religion d'amour, pas une religion de foi. C'est une religion d'amour que notre religion. J'entendais un Juif dire à Radio Ville-Marie l'autre jour, fort sympathique par ailleurs, qui croyait que notre religion est une religion de foi. Plusieurs amis de Simone Veil lui ont parlé de leur conversation avec des religieux. Et intéressé, Simone Veil va au couvent et fait connaissance donc du père Perrin. Et là, c'est comme ça qu'il devient une amie, un confident. Et Simone Veil entre avec fougue dans un domaine qu'elle connaissait déjà. Et alors, ça renforce son intérêt pour la vie chrétienne. Un jour, la question du baptême va se poser. La négative, hein, comme je vous ai dit. Son amour de Dieu et du Christ, qu'elle considère comme Dieu, ne semble pas souffrir de son isolement religieux. Il faut lire à la page 164, je lisais ça hier, c'est tellement extraordinaire. Hein. « Je ne me demande jamais si Jésus a été ou non une incarnation de Dieu. Mais en fait, j'étais incapable de penser à lui sans le penser comme Dieu. » Elle dit ça au père Perrin, à page 164 de son livre « Mon dialogue avec Simone Veil ». Alors, son amour est immense. Les pages de Simone Veil, dans son autobiographie spirituelle « Attente de Dieu », dont je vous ai parlé, révèlent une âme extrêmement attentive à sa vocation spirituelle, parce que l'essentiel de sa pensée peut se formuler ainsi, écoutez bien, le détachement absolu, l'anéantissement du « moi » pour que Dieu opère dans l'âme, l'être humain prête son humanité à Dieu afin qu'à travers elle, il puisse entrer en contact avec autrui. Alors, ses maîtres principaux sont Maître Eckhart, dont je vous ai déjà parlé, Saint Jean de la Croix aussi, je vous en ai parlé, et je vais y revenir. Et Simone Veil saisit parfaitement la beauté du christianisme. C'est parce qu'elle en a pleinement conscience, peut-être qu'elle souffre de le voir défiguré au cours de son histoire et qu'elle hésite à s'y joindre. Si elle avait vécu, Simone Veil, je crois qu'elle aurait sans doute composé un manifeste chrétien fantastique, qui aurait converti des millions de gens, peut-être. Enfin, dans ses cahiers, dans la connaissance surnaturelle, dans ce livre « Attente de Dieu », oh, puis dans celui aussi qui se publie en format de poche là, dans la collection Idées de la NRF, « L'enracinement », il faut lire ça, ça. C'est autant de fulgurants témoignages sur le plan chrétien. Ses commentaires de textes grecs aussi, la source grecque publiée chez Gallimard il y a bien longtemps, j'ai ça depuis 40 ans, je sais pas. C'est des choses fantastiques à lire. Oh, s'il y avait une histoire du sentiment religieux au 20e siècle, comme on en a écrit déjà pour les siècles précédents, hein, eh bien, elle aurait une grande place. Simone Veil semble connaître mystérieusement la brièveté de son existence. Elle est pressée, elle marche à pas de géant. À aucun instant de divertissement, la simple distraction, tout ça, ça ne peut pas la retenir, elle bondit. Et en écrivant ces lignes-là, on peut pas faire autrement que de penser à Guillaume de Saint-Thierry, dont je vous ai parlé aussi, ce mystique du 12e siècle, qui évoque le fang des biches dont la démarche rapide est liée à l'acuité du regard. Elle a une acuité du regard et elle voit, puis elle bondit, puis elle va vers. La lucidité de Simone Veil lui permet cette prodigieuse pénétration de la vie chrétienne qu'elle aime et pour laquelle elle se sent faite, en dehors toutefois, d'une participation systématique à l'Église constituée. Elle ne serait pas capable, comme la plupart d'entre nous, j'espère, qui allons à la messe tous les jours et qui n'en souffrons pas. Les messes, parfois, ne sont pas tout à fait ce qu'on voudrait, mais on sait que c'est la messe et que c'est plus précieux que tous les diamants de la terre. Peu importe. Oh, c'est bien plus beau. J'ai assisté à une messe dimanche à 5 heures à la cathédrale. C'était tellement beau. Ah, l'abbé Couturier a célébré de façon magnifique. Le sermon du curé était bien, les lectures étaient bien, l'allumateur du gué était fantastique. Ah, oh, que ça fait donc du bien. Son goût de la pauvreté, son amour des humbles, son désir de servir autrui et de partager ses douleurs sont désormais... Ça va désormais cesser d'être solidaire. Et depuis longtemps, au plus secret de son être, une sorte de maturité se prépare. Elle s'installe maintenant à demeure et ceux qui ont retrouvé Simone Veil à Marseille ont été frappés par l'expression de son visage. Il y avait une brûlure qui la consumait depuis son enfance et à l'intérieur d'elle-même. Ça s'est ému comme en lumière. Sa tête... Oh, il faut voir les dernières photos. Sur la couverture, d'ailleurs, du livre du père Perrin, là, mon dialogue avec Simone Veil. Elle est belle, elle est belle. Oh, une splendeur. Une intelligence. Une grande beauté. L'ironie de sa jeunesse... reste peut-être présent, mais je la vois pas. C'était toujours accompagné d'un sourire doux et compatissant à ce moment-là, à Marseille. Son contact fréquent avec les auteurs mystiques devenus pour elle des amis, et ça laisse des traces. Dans tout son être. Son être, on dirait, se liquéfie par la mystique. Comme un cierge qui se liquéfie. Dont elle dira que le cierge, là, est l'image d'un être humain qui à tout instant offre à Dieu la combustion intérieure. De tous les instants qui constituent la vie végétative. Quand vous allumez un cierge, c'est ça que vous faites devant Dieu. C'est à l'image d'un être humain, de votre être, qui à tout instant offre à Dieu la combustion intérieure. Aucun état dévotionnel chez Simone Veil quand même. Pas d'attitude vertueuse agaçante, hein? Non, c'est pas son genre. La connaissance surnaturelle, son livre, qui groupe des notes composées entre le départ de Marseille et celui des États-Unis pour l'Angleterre, nous montre cette attente perpétuelle de Simone Veil à l'égard de Dieu. Elle va toujours, elle sait que Dieu la recherche. Elle va toujours au cœur de toute expérience entreprise. Elle sait ce que c'est que la chambre nuptiale des mystiques. Elle connaît les paroles de Jérémie. Et Simone Veil demeure dans le silence du cœur. Elle reçoit l'inspiration de Dieu. Pendant cette dernière période de sa vie, elle est comme... un serviteur qui attend la venue de son maître. Elle dira d'ailleurs, l'attente est le fondement de la vie spirituelle. Les pages qui ont été publiées comme prologue à la connaissance spirituelle sont significatives. Elle écrit, « Il entra dans ma chambre et dit, « Misérable qui ne comprend rien, qui ne sait rien, viens avec moi, et je t'enseignerai des choses dont tu ne te doutes pas. » Et elle écrit, « Je le suivis. » Il m'amena dans une église, elle était neuve et laide. Il me conduisit en face de l'autel et me dit, « Agenouille-toi. » Je lui dis, « Je n'ai pas été baptisé. » Et il me dit, « Tombe à genoux devant ce lieu avec amour, comme devant le lieu où existe la vérité. » Et j'obéis. Il est impossible, évidemment, de savoir à quelle église Simone Veil fait allusion. Le père Perrin pense que c'est probablement l'église des Dominicains à Marseille. Mais peut-être s'agit-il tout simplement d'une église dans un quartier populaire de Paris, où Simone Veil allait prier quand elle était ouvrière. Mais peu importe d'ailleurs, celui qui entre dans sa chambre est le Christ. Ça, c'est sûr. Et le colloque qu'elle a raconté, là, qui s'ébauche entre elle et lui, ne connaîtra de pas de fin. Pas nécessaire d'insister sur l'expérience spirituelle de Simone Veil, il suffit de rappeler que ce texte, disant que la grâce de Dieu est telle que parfois dans notre malheur même, il nous fait sentir une beauté, écrit-elle. Et elle ajoute, c'est alors la révélation d'une beauté plus pure que celle qu'on connaissait jusque-là. Oui, Simone Veil, pendant les derniers mois qui ont précédé sa mort, a dû entrer en contact avec la propre beauté de Dieu. Il faut bien reconnaître, je pense, que l'émerveillement spirituel dans lequel est entrée Simone Veil, cette maturation, on peut dire, qui soudain s'épanouit, porte ses fruits. Mais ça ne modifie pas Simone Veil dans ses désirs, et sa vocation s'affirme avec une force identique. À Marseille, elle apprend le décret du gouvernement de Vichy, qui interdit aux Juifs d'enseigner et qui leur conseille de travailler la terre. Alors, grâce au Père Perrin, je vous rappelle qu'il est dominicain, c'est une belle vocation que celle des dominicains, je le signale aux jeunes. Simone Veil fait la connaissance de Gustave Thibon. Elle peut, suivant son désir, devenir ouvrière agricole. Et déjà dans une lettre à Xavier Vallin, Simone Veil disait « Le gouvernement a fait savoir qu'il voulait que les Juifs entrent dans la production puis de préférence aillent à la terre. Bien, eh bien, que je ne me considère pas moi-même comme juive, eh bien néanmoins j'ai obéi. » Alors son expérience agricole sera brève parce qu'elle n'a pas d'allure là-dedans. Et la famille Veil a sollicité son départ pour les États-Unis. Le 16 mai 1942 ou 17 mai 1942, Simone Veil s'embarque. Elle a confié ses cahiers à son ami Gustave Thibon. Et plus tard, c'est au Père Perrin, à Gustave Thibon, que Simone Veil devra, à titre posthume, n'est-ce pas, la première publication de ses ouvrages qui se vendront en quantité énorme. Car on saura apprécier la grandeur, heureusement, pendant un certain temps, de cette femme fantastique, un peu oubliée aujourd'hui, malheureusement. Faudrait la ressusciter. Courez lire Attente de Dieu et L'Enracinement, et aussi mon dialogue avec Simone Veil, signé Joseph-Marie Perrin cette fois-ci. Elle a écrit des leçons de philosophie, elle a écrit Intuition pré-chrétienne, Pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu. Oh, ça, il y a des belles choses là-dedans. Et puis, La Source grecque. Et puis, il y a aussi un livre publié il y a longtemps chez Beauchesne, L'évolution spirituelle de Simone Veil, de Bernard Halda. Oh, c'est intéressant, c'est pas très long, 182 pages, mais en petits caractères, c'est très bien. Il faut lire des belles choses comme ça pour apprendre à aimer la vie et Dieu et tout, hein. Alors, à peine arrivée à New York, Simone Veil emploie toute sa volonté pour quitter l'Amérique. Elle veut entrer en France, elle veut vraiment se faire parachuter en France. L'occupation sévit, hein, puis il y a les noms des fusillés qui sont sur les murs, et puis chacun peut demain être inscrit sur une liste noire. Il suffit d'une simple dénonciation, hein. Et Simone Veil a-t-elle pu deviner l'humiliation des Français lors de l'occupation? On ne le pense pas. Il fallait être sur place, hein. Les Français qui ont vécu en zone sud, envahis tardivement à la fin de la guerre, ils ne savaient pas ce qui se passait vraiment en haut. Mais à l'étranger, on se préoccupait de la question du ravitaillement en France. Et puis, il y avait des arrestations, puis le déshonneur, et tout ça. C'est des choses épouvantables. Le seul chemin pour entrer en France, alors, c'est de passer par l'Angleterre. À Maurice Schumann, que nous avions déjà interviewé, d'ailleurs, à Rencontre, Marcel Brisebois et moi, mais elle écrit « Le malheur répandu sur la surface du globe terrestre m'obsède et m'accable au point d'annuler mes facultés. » Une lettre à des amis londoniens implore « Je vous en prie, faites-moi venir à Londres. Cela me met tout près du désespoir. » Et puis, elle se rend à Londres en novembre 42. Et là, la déception est cruelle, car malgré la véhémence de son désir, elle n'obtient pas la réalisation de ce voyage. Elle voudrait parachuter en France, comme je vous ai dit. Elle est chargée de rédiger des rapports. Ça n'a pas d'intérêt pour elle, puis elle entrevoit la mort. Quand elle écrit « L'effort que je fais ici » sera dans peu de temps arrêté par une triple limite, l'une morale, car la douleur de me sentir hors de ma place, croissant sans cesse, finira, malgré moi, je le crains, par entraver ma pensée. L'autre intellectuel. Il est évident qu'au moment de descendre vers le concret, ma pensée va s'arrêter faute d'objet. Puis la troisième est physique, car la fatigue grandit. Et Simone Veil, insuffisamment nourrie, meurt brûlée par sa propre vocation. Hein. Elle était destinée à partager le malheur d'autrui, et du fait des circonstances, mais cette possibilité lui est refusée. Elle se laissera donc mourir, et telle sera la tragédie de sa mort. Hein. Cette mort que chacun porte en soi, à laquelle Rilke fait allusion d'ailleurs, dont la vie n'est que l'ébauche dans la mesure de l'authenticité de l'existence, n'avait-elle pas dit « La vérité est du côté de la mort ». Et c'est vrai, le Christ qui est la vérité, on le verra dans toute sa splendeur. L'œuvre de Simone Veil est immense, un article mis à part, elle est presque entièrement posthume, comme je vous ai dit. Simone Veil écrivait sur des cahiers à couverture cartonnée beige, là. Écriture extrêmement régulière et lisible, parce qu'au début, c'était des pattes de mouche, on ne pouvait pas rien lire. La culture de Simone Veil ne connaît pas de bornes. La pensée grecque, la Bible, les œuvres de Platon, les légendes, les textes de Kierkegaard, des Upanishads, etc. Simone Veil prend parfois un accent prophétique et elle dira « Chacun sait par une expérience continuelle qu'il reçoit l'inspiration ». Et Simone Veil peut paraître paradoxale car il semble qu'elle veuille à la fois construire et détruire. En réalité, elle ne détruit rien. Mais comme son maître Alain, elle jette le doute dans l'esprit. Et lire ses œuvres peut nous jeter dans le doute. Il faut faire attention. Elle oblige à reposer les problèmes, à les regarder avec objectivité, sous des faces différentes, suivant la méthode de Socrate. Cette vie, puis cette œuvre considérable de Simone Veil ont été accomplies par une femme qui est morte à 34 ans et demi et qui a subi durant toute son existence d'atroces maux de tête qui ne sauraient être comparés à de simples migraines, c'est sûr. C'est tout autre chose. Simone Veil, qui a écrit tant de belles choses, j'ai le goût de vous en lire d'autres. Ici, dans « Attente de Dieu », c'est en page 124. Le Christ a indiqué, l'amour du prochain, a indiqué cela assez clairement. Il a dit qu'il remerciait un jour ses bienfaiteurs en leur disant « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Qui peut être le bienfaiteur du Christ, si ce n'est le Christ lui-même? Et elle ajoute « Comment un homme peut-il donner à manger au Christ s'il n'est pas au moins pour un moment élevé à cet état dont parle saint Paul, où il ne vit plus lui-même en lui-même, où le Christ seul vit en lui ?» Dans le texte de l'Évangile, il est question seulement de la présence du Christ dans le malheureux. Pourtant, il semble que la dignité spirituelle de celui qui reçoit ne soit pas du tout en cause. Il faut alors admettre que c'est le bienfaiteur lui-même, comme porteur du Christ, qui fait entrer le Christ dans le malheureux affamé avec le pain qu'il lui donne. L'autre peut consentir ou non à cette présence, exactement comme celui qui communie. Si le don est bien donné et bien reçu, le passage d'un morceau de pain d'un homme à un autre est quelque chose comme une vraie communion. Les bienfaiteurs du Christ ne sont pas nommés par lui, aimants ni charitables, ils sont nommés les justes. L'Évangile ne fait aucune distinction entre l'amour du prochain et la justice. C'est dans « Attente de Dieu » de Simone Veil. J'ai tellement lu de beaux textes d'elle que je reste stupéfait qu'on les entende pas plus souvent partout. On devrait parler comme elle a parlé, écrire comme elle a écrit. Simone Veil, malheureusement non baptisée, mais je crois bien, j'espère, que Dieu l'a reçue immédiatement contre son cœur. Chère Simone Veil, grande Simone Veil,